L'émission jazz d'Aligre FM.
Tous les samedis à
17h. Bienvenue au club, bienvenue Simon Goubert.
Bonjour.
Je me demande si je ne vous ai pas vu naître dans un club avec votre maman en train de vous mettre au monde. Ça aurait pu être le cas.
Ça aurait pu être le cas, oui. En tout cas, ça a été comme une seconde naissance quand j'ai connu les clubs de jazz à l'âge de 14 ans, à
les
peu près.
Les clubs parisiens.
Les clubs parisiens, oui. J'avais 13-14 ans. Et ça a été vraiment une seconde naissance, oui.
Et vous les avez écumés au fil de votre carrière qui continue à se dérouler allègrement.
Oui, oui.
Je crois que je vous ai vu dans tous les clubs parisiens et des alentours.
Au moins une fois, oui.
Au moins une fois. Qu'est-ce que ça a de particulier, un club, pour vous?
Alors... D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un club ? Et puis, les clubs dans lesquels j'ai l'habitude de dire, grandi.
Après votre naissance, donc.
Après ma seconde naissance, n'avaient pas beaucoup de choses à voir avec ce qu'on appelle les clubs maintenant, à part la taille des lieux.
On pouvait presque y dormir à l'époque, non ?
Ben, moi, j'y dormais.
Sérieusement ?
Sérieusement, oui, parce que ça m'est arrivé à des périodes compliquées où le club dans lequel j'ai vraiment grandi, encore une fois, j'emploie ce mot à dessein.
C'était le Petit Opportun ?
Non, c'était avant, c'était le Riverbop.
Le Riverbop.
À partir de 1975, on va dire.
Dont s'occupait Jacqueline Ferrari.
Voilà. Et comme elle savait que je vivais sans moyen d'écouter de la musique, après, elle s'en allait, elle me laissait les clés du club. Et je pouvais jouer de la batterie sur la discothèque incroyable qu'il y avait. elle revenait à 18h30 le lendemain.
Vous mettiez les disques et vous jouiez dessus.
Voilà, c'est ça. Je jouais sur la batterie des batteurs qui jouaient là. Quoi.
Et vous avez, je me souviens qu'en 2001, il y a 25 ans, bon sens,
ouais.
Ça passe à une vitesse incroyable. Ouais. Vous aviez enregistré un album qui s'appelle Désormais, dans un club parisien déjà.
Oui, c'était le Duc des Lombards, l'ancienne formule, pas celui qu'on connaît maintenant. Et en effet, le but du jeu était d'avoir un double album avec les mêmes morceaux en club et enregistré en studio 3 jours après.
Ça vous dirait qu'on remonte le temps, on va fermer les yeux, on va pousser la porte du Duc des Lombards avant que vous montiez sur scène.
Thank you.
Simon Goubert à la batterie avec Sophia Domancich qui avait composé ce rêve de singe, elle était au piano. C'est Yannick Rieux au saxophone ténor et pour la contrebasse Michel Zénino. Ouais. Simon Goubert, on était là à l'ancien Duc des Lombards donc en janvier 2001 et vous avez un souvenir particulier de votre arrivée avant le concert, avant les sons qui s'accordent qu'on avait entendus au tout début.
Oui, oui, parce que c'était l'idée du producteur de ce disque, Francis Linon, qui était l'ingénieur du son également.
Félicitations alors.
Et il produisait avec Stella Vander cet album et on avait eu l'idée de faire, donc comme je le disais, un double album. C'est lui qui avait eu l'idée de faire un double album en club et en studio. Mmh. Et ce soir-là, il se trouve qu'il y avait beaucoup de monde, enfin en tout cas le maximum que le club pouvait accueillir à l'époque. Il avait une plus grande contenance que celui de maintenant. Mmh.
Oui, je me souviens, on s'assied sur les escaliers.
Voilà, exactement, sur le podium éventuellement. Y avait donc l'équipe de l'enregistrement de cet album, mais le même soir, il y avait l'équipe de Radio France qui était là.
C'était le Jazz Club de c'était France Musique, avec voilà, Claude Carrière.
Voilà, exactement, qui à l'époque durait deux heures, de 23h30 à 1h30 du matin.
Et qui était un vrai direct.
Oui, qui était un vrai direct, absolument.
Le vendredi soir. Si je me souviens bien.
Absolument. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai vu beaucoup de monde faire la queue dehors et je n'avais pas compris que c'était pour nous. Je pensais qu'on ne nous avait pas prévenu qu'il y avait un autre concert avant nous. Voilà, et c'était quelque chose qui était très intimidant à l'époque de voir tout ce monde monopolisé pour quelque chose qu'on avait mis sur pied. Quoi. Mmh. Voilà.
Après, Simon Goubert, à l'époque, vous étiez déjà passé par Magma.
Oui, une première période. Ouais,
si
absolument.
Vous aviez 10% du fan club de Magma qui était là, ça aurait débordé jusqu'à la place du Châtelet, je pense.
Oui. C'est vrai que c'est un groupe qui ne joue pas de la musique qui s'apparente au jazz, mais par contre qui a amené beaucoup de monde au jazz à en écouter.
Et alors Simon Goubert, dans ces années-là, ou même un peu avant, vous nous disiez que vous avez grandi adolescent, vous étiez déjà présent dans les clubs, vous adoriez rester, écouter.
Ouais.
Les jam sessions, qui sont un des trucs les plus fameux qui ont lieu dans les clubs de jazz, vous avez connu le début des jams à Paris ou elles existaient déjà?
Non, quand j'ai commencé, ça n'existait pas encore. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, à part le CIM qui commençait...
Qui était l'école de jazz.
L'école de jazz qu'il y avait à Paris. À part ça, il n'y avait aucune école nulle part. Et donc, le seul moyen d'apprendre cette musique était de venir jouer un ou deux morceaux tous les soirs avec les anciens. y compris les anciens très connus. Voilà, et pour eux, c'était normal d'accueillir un petit jeune au troisième set. Alors, ça m'obligeait évidemment à faire le mur de chez moi parce que mes études n'étaient pas terminées, mais j'ai dû...
Avec juste vos baguettes, pas avec vos cymbales et vos tambours.
Même pas de baguettes, je prenais les baguettes qu'il y avait sur la batterie. Oui, oui. Et tous les batteurs étaient extrêmement bienveillants. Donc, il y avait au Riverbop, il y avait Aldo Romano, il y avait Jacques Tolo qui me faisait jouer tous les soirs, Bernard Luba, Christian Vander, il y avait les Américains qui vivaient à Paris, je pense à Oliver Johnson, George Brown, qui me faisaient jouer aussi oui, tous les jours.
C'était le gamin qu'on avait envie d'aider, quoi.
Oui, enfin, qu'on avait envie d'aimer, non, mais qu'on protégeait. On protégeait, ça, j'étais très protégé des quelques mauvais côtés que pouvait avoir la vie de nuit, puisque... Mais bon, ce qui ne m'empêchait pas de rentrer chez moi à pied et après.
C'est une époque où on fumait dans les clubs.
On fumait énormément.
Sans parler de l'alcool.
Voilà. Et il n'y avait aucune limite de temps. Et je pense qu'il y a une chose qui est très importante à dire tout de suite, c'est que je crois qu'une des différences majeures entre les clubs de cette époque-là, donc je vous parle de la fin, la deuxième moitié des années 70.
Ok, ça fait presque 50 ans.
Ouais, moi j'ai commencé à être tous les jours au Riverbop en 76, quoi, 76, 77.
Je suis étonné que vous ne soyez pas venu en culotte courte aujourd'hui d'ailleurs.
la grande différence, c'est que c'était vraiment un monde parallèle. Mmh. Et que toute personne qui travaillait dans le club, que ce soit la personne qui était à l'entrée, qui servait au bar, ou les patrons et patronnes, connaissaient aussi bien les disques que les musiciens. Mmh. Alors que maintenant, à part exception, les gens qui sont derrière le bar ou qui dirigent les clubs ne connaissent que les gens qui ont joué chez eux. Mmh. C'est pas des gens qui sont mangés tous les disques de jazz de la planète. Et à l'époque, c'était vraiment toute personne qui travaillait dans un club de jazz...
Était un vrai amateur de jazz.
Était vraiment amateur, quoi. Mmh. Ce qui fait que personne n'était fatigué. Tout le monde était là pour la même cause.
Je sais que vous avez joué avec des big bands en club. Moi, j'ai des expériences extraordinaires. J'invite toutes nos auditrices et nos auditeurs, s'ils ont la chance d'aller voir un big band en club, mettez-vous au premier rang. Vous allez en prendre plein les mirettes, plein les esgourdes aussi. Imaginez en 58, dans un club de Los Angeles qui s'appelle le Crescendo, juste deux micros posés devant le big band de Count Basie. On y est. Thank you. incroyable, hein, le club, le Crescendo à Los Angeles en 1958, c'est l'année où Basie avait sorti son fameux Atomic Basie. On entendait les gens parler, vous l'avez remarqué, c'était, ils étaient là, ils étaient avec la musique, ils la commentaient, ils faisaient partie de la musique telle que le disque nous l'a restituée. Ben c'est ça aussi le club, le fait que les gens fassent partie de la musique.
Oui, et puis il y a cette énergie qu'on reçoit quand on est sur scène. Bien sûr, on la reçoit quand on est sur une grande scène avec que ce soit 580 ou 3000 ou 10 000. Mais dans un club, il y a la proximité aussi. Et à l'époque, c'était vraiment... moi, j'ai des souvenirs d'avoir joué avec des gens assis quasiment sur le pied de Charleston et qui fumaient toute la soirée. Enfin, et toute cette énergie qu'on recevait, on la rebalançait. Et pour ce qui est des big bands, ça permet d'entendre toute la subtilité de tous les timbres, de toutes les nuances jouées par chacun. Enfin, c'est fantastique. En plus, là, c'est vraiment un cas d'école, quoi. C'est une merveille.
On a juste le regret de ne pas avoir été là-bas à ce moment-là. Ouais, quoi. Ouais. Et vous, vos expériences de big band en club, c'était qui?
C'était, alors je pense au tout début des années 90, il y a eu pendant quelques mois, tous les lundis, avec le big band de Lionel Belmondo et François Théberge.
La tradition des lundis comme au Village Vanguard.
Voilà, ça partait de ça. Ouais, quand le Sunset a arrêté de faire les jam sessions le lundi, ce qu'il fait à nouveau, d'ailleurs.
Oui.
Ça a été le big band. Et puis après, dans un big band tout à fait différent, c'était au Duc des Lombards, l'ancien toujours, et c'était le lundi aussi, c'était avec le big band de Yoshko Sefer.
Voilà, les rendez-vous de Simon Goubert, c'était le lundi dans les clubs parisiens. Bonsoir, c'est Alex Dutille dans Jazzland sur Aligre FM, tous les derniers samedis du mois, 17h-18h. C'est l'heure du plaisir du jazz. Le New Morning à Paris, Simon Goubert, ça fait partie des endroits particuliers pour vous ou c'est un club comme les autres?
Alors, c'est là que pour moi la notion de club s'arrête.
C'est vrai?
Oui, pour moi c'est un lieu de concert. C'est un lieu de concert dans la mesure...
Dites-moi la différence.
La différence pour moi, c'est enfin pas seulement pour moi, tel que j'ai appris ces musiques, c'est que les clubs étaient le laboratoire. Donc pas de limite de temps, pas de... J'ai des souvenirs vraiment incroyables. La première fois que Roy Haynes, qui est un des héros historiques de la batterie, est venu sous son nom, pendant la semaine, il y a eu une moyenne de 8 personnes par soir. Alan Holdsworth, un guitariste incroyable qui est venu, qui sortait du groupe de Tony Williams, il est arrivé et pendant toute la semaine, je crois qu'il y a eu un soir où il y a eu 7 entrées. Et par contre, tous les musiciens étaient là. Alors que... et donc, pas de limite de temps de musique. Donc possibilité d'essayer des tas de choses, y compris si on prend le risque de se répéter, et les concerts étaient faits pour jouer le résultat de toutes ces recherches. Alors que maintenant, dans ce qu'on appelle un club, on arrive avec un projet, comme on appelle maintenant à la place de groupe, on dit un projet, même quand ça date d'il y a 10 ans.
C'est un lieu de diffusion.
C'est un lieu de diffusion pour défendre un nouvel album. On va jouer un soir, éventuellement deux concerts.
Alors il y a peut-être un club qui reste dans cet esprit-là à Paris, c'est le 38 Rives. Où je vois,
oui, mais
je constate
on...
que toute la nouvelle génération
le prend
comme un laboratoire.
Oui, absolument, grâce à la bienveillance de la programmatrice
Elsa Viguier.
Et c'est vrai qu'on peut tenter des tas de choses. Par contre, on est limité dans le temps à une heure.
C'est vrai.
Et c'est un nouveau public, c'est-à-dire que dans ces clubs, les gens arrivaient... Alors bien entendu, c'est jamais la classe ouvrière qui a été cliente des clubs de jazz.
Qui doit se lever à 5h ou 6h.
Voilà. Par contre, les musiciens de jazz à l'époque venaient de toutes les couches sociales. Mmh. Et il y avait aussi bien des fils de généraux ou d'avocats, je ne vous dirai pas les noms, mais en tout cas, je vois à qui je fais référence, que fils d'électricien, que fils de maçon, que fils de carreleur. La majorité fils ou filles d'émigrés. Voilà. Alors que maintenant, la couche sociale des musiciens est en grande partie la même que celle qui écoute. Mmh. Puisqu'ils viennent d'écoles qui demandent ça.
Et c'est à des heures moins tardives aujourd'hui aussi.
C'est à des heures moins tardives aussi également.
Et
ce qui n'enlève absolument pas le talent des jeunes musiciens en question. Oui. Hein. Il y a des gens que j'adore et que j'écoute passionnément. Mais je parle vraiment de... Vous me demandiez la différence et je crois que la différence est vraiment là. Quand il y a eu le New Morning, c'est devenu un très beau lieu de concert et qui est un lieu pour moi mythique et j'adore y jouer, mais c'est un lieu de concert qui n'est pas ce que j'appelais un club de jazz.
Alors, il reste quand même la proximité quand on est au New Morning.
Oui.
1982, Stan Getz était là en quartet.
Merci, bonsoir. Nous voudrions jouer un morceau de Antonio Carlos Jobim, Un grand amour. Thank you.
Stan Getz, au grande amour, évidemment un Jobim comme il adorait les jouer, Stan Getz au ténor, Victor Lewis à la batterie, votre collègue Simon Goubert, Mark Johnson à la basse et Jim McNeely au piano, un quartet au naturel, on sent qu'il est à l'aise, qu'il est comme à la maison. Ouais. Il y a cette sensation aussi, non, dans les clubs, où le petit format, parfois, je citais le 38 Riff tout à l'heure, c'est la taille d'une salle de séjour d'un particulier, quoi. On se sent dans un cocon. J'imagine que ça joue
complètement.
L'intimité qu'on peut mettre dans la musique.
Rien que le fait de s'installer derrière son instrument, d'avoir quelqu'un à un mètre à côté... Ouais. Qui vous regarde, qui vous dit un mot, vous pouvez répondre. Et bien sûr, oui, non, c'est une énergie. Et il y a une intimité qui est fantastique et qui est très féconde de plein d'idées musicales.
Alors, vous avez beaucoup fréquenté, Simon Goubert, les clubs parisiens. Mm-hmm. Mais est-ce que les clubs new-yorkais font partie de vos fantasmes ou de votre réalité?
Bien sûr, non, j'y étais. J'ai été écouter des concerts, mais je n'y ai jamais joué. Mais évidemment que le village... J'étais très ami avec Chan Parker, qui à chaque fois...
La veuve de Charlie Parker.
Je voudrais jouer au Vanguard. Elle me dit, Vanguard, chérie, Vanguard. c'était mon rêve, évidemment, bien sûr.
On va y aller. Imaginons qu'on est en 1992. C'est Wynton Marsalis qui est là. Qui, dans Cherokee, prend des risques inimaginables sur un truc éculé que tout le monde croit connaître, et il joue au funambule. Thank you. le Village Vanguard avec le quartet de Wynton Marsalis à la trompette et sur Cherokee. C'était Eric Reed, le pianiste, Reginald Veal, le bassiste, et Erlyn Riley, que vous adorez comme moi, qu'on avait le mois dernier dans Jazzland sur Aligre FM, qui était à la batterie. On entend chez Wynton Marsalis, qu'on a parfois qualifié de posé, de classique, etc. Là, c'est le lâcher-prise total. Il lâche tout, quoi. Et ça, c'est le club qui le permet, j'imagine, aussi, Simon Goubert.
Ah, je pense, oui, il se permettrait sans doute pas la même chose à l'Olympia.
Oui, oui, oui.
Voilà, mais il en est capable. C'est un tellement grand trompettiste. Et c'est vrai, ça peut ouvrir un débat, mais on n'a pas le temps, justement, cette volonté de donner de l'image du jazz une chose plus finie. Il a dit lui-même, d'ailleurs, il a dit lui-même qu'il voulait rendre les lettres de noblesse au jazz, alors que est-ce que elles ne les avaient pas déjà, si. Est-ce qu'elles ne les ont pas quand on écoute Duke Ellington ou Count Basie tout à l'heure, enfin, ou Django, voilà, je pense. Par contre, le contexte n'est pas forcément le même, mais c'est un tellement immense musicien. Ouais.
Vous avez lu une anecdote dans l'autobiographie de Miles à propos de ce qu'on peut oser
voilà,
en club.
Oui, absolument. Dans l'autobiographie de Miles, il explique. Il parle pendant un long moment de cette formation qui l'a tellement inspiré, qui est le groupe qu'avait Dizzy Gillespie avec Charlie Parker, Max Roach, Duke Jordan, je pense à l'époque. Et Miles explique, il dit, il n'y a aucune trace discographique de ce qu'était ce groupe en club et on n'a pas idée de la différence qu'il y avait d'un jour à l'autre et des risques qu'il prenait sur chaque morceau. Ouais. Alors que a priori, on pourrait se dire que, évidemment, Dizzy et Bird maîtrisaient totalement toutes ces compositions qu'ils avaient l'habitude de jouer.
Mais ils cherchaient constamment.
Et Miles insiste vraiment là-dessus en disant que c'était totalement différent d'un jour à l'autre, mais on n'a pas les traces de ça. Alors, quelqu'un me faisait remarquer qu'il y avait beaucoup de chorus de Bird, en tout cas, qui étaient sortis de quelqu'un qui ne prenait que les chorus de Bird. Et
Dan Benedetti.
Voilà, exactement.
Qui courait
voilà.
D'un club à l'autre
voilà,
avec un magnétophone.
C'est ça, et je vais m'empresser d'écouter ça, que je dois avouer que je ne connaissais pas du tout cette source-là.
Mais vous avez encore une vie entière devant vous pour découvrir ça, Simon Goubert. Un club de Chicago, fameux, tous les pianistes ont ce disque d'Ahmad Jamal, At the Pershing. Wow. Est-ce que ça peut exister, cette version de But Not For Me, ailleurs qu'en club ?
L'émission jazz d'Allegre FM.
Tous les samedis à
17h. At the Pershing de Chicago, Ahmad Jamal, But Not For Me, Ahmad Jamal au piano. Israel Crosby à la basse, Vernel Fournier à la batterie, c'est un classique des classiques.
Oui, un disque de chevet. Oui.
Et Ahmad Jamal, à cette époque-là, a très vite acheté lui-même un club de jazz. Il avait envie d'être propriétaire d'un club. C'est un moment où il gagnait très très bien sa vie. Bon, ça lui a pas réussi parce qu'il a dû céder son club après. Je crois qu'il avait fait beaucoup de pertes en jouant aux courses sur des chevaux qui étaient son, c'est le cas de le dire, son dada un peu malheureux. Mais vous, Simon Goubert, qui avez participé il n'y a pas si longtemps à la création d'un label, Piwi.
À la recréation
d'un label, en vous associant avec deux amis. Ça vous a jamais tenté, vous qui êtes un enfant des clubs de jazz, d'avoir un endroit à vous, où vous accueilleriez à votre tour des musiciens?
Alors ça fait partie des fantasmes qu'on peut avoir quand on se dit si je gagnais demain au loto, qu'est-ce que je ferais? Monter un club. Et d'autant plus que vraiment je reste un fervent défenseur de cet état d'esprit qui n'est plus vraiment possible d'appliquer parce que la vie a évolué tout simplement et que le jazz comme tous les arts est le reflet de la société telle qu'elle est maintenant aussi. Mais par exemple j'ai beaucoup aidé les fondateurs du club Mâconnais Le Crescent.
Exact. Très beau club en région.
Au début c'était vraiment dans cet esprit-là qu'ils l'ont fait.
Il y avait une communauté de musiciens.
Il y avait une communauté de musiciens et le but était de les faire se rencontrer avec des très grands musiciens ou musiciennes. Et à l'époque, je les ai vraiment aidés à ça et ils ont continué leur vie. Maintenant, c'est un club qui a pignon sur France. Non, je reste un témoin de ça. Je pense être un... On est quelques-uns. Hein. J'ai quelques amis qui ont vécu ça en même temps que moi.
Et qui sont aussi attachés que vous.
Oui. Alors, évidemment, c'est facile de devenir nostalgique parce que c'était la porte ouverte à tout, à refaire le monde tous les jours, à toutes les passions, à toutes les disputes, à toutes les preuves d'amour. Mais voilà, le monde est différent maintenant. Et je crois que maintenant, il faut aussi préciser que les musiciens n'étaient pas déclarés, que la programmation était faite environ un mois et demi avant, pas plus.
Et il y avait un truc très différent, c'est qu'on pouvait rester une semaine entière.
Voilà. Et donc construire la musique.
Voilà, c'était important aussi, j'imagine.
Et puis, quand les gens arrivaient au début du premier set, ils faisaient le voyage avec vous sur les trois sets. Et ce qui n'est pas pareil que de faire deux concerts avec deux publics différents, où évidemment, le deuxième public a payé aussi cher que le premier. Et on veut aussi, entre guillemets, pour son argent, et il a raison, c'est-à-dire il veut un beau concert, voilà, il ne veut pas tenir compte de l'heure et demie qui a été jouée avant, et il a raison, encore une fois.
Ça, c'est une différence d'ailleurs entre les clubs parisiens, enfin les clubs en France d'une façon générale, et les clubs new-yorkais, c'est que dans les clubs new-yorkais, on reste toujours 5 jours. D'affilée. Et ça permet à la musique aux musiciens de trouver des choses différentes d'un jour sur l'autre.
Ouais, j'ai eu la chance une fois de jouer un mois d'affilée dans un lieu.
Wow.
Et avec la même formation, qui est la formation qu'on a écoutée tout à l'heure. C'était 2 ans après l'enregistrement qu'on a écouté tout à l'heure.
C'était où ?
C'était en Suisse, à Vevey, sur l'initiative du pianiste Malcolm Braff, qui programmait un lieu où il recevait un groupe par mois. Et je dois dire que la musique a fait un bond phénoménal. C'est le rêve de tout musicien, de toute musicienne, de tout artiste, de toute façon, de pouvoir jouer, s'exprimer pendant un mois d'affilée.
Bien sûr. On va écouter une vocaliste maintenant, qui est Sarah Vaughan, dans un autre club, Mr. Kelly, qui se trouve du côté de Chicago, comme le Pershing d'Ahmad Jamal. On est en 1957, et vous allez me dire si c'est différent pour les vocalistes, dans les atmosphères enfumées, que ça allait pour vous qui êtes batteur. Sarah Vaughan.
Thou swell, thou witty, thou sweet, thou grand, would kiss me pretty, wouldst hold my hand.
Both thine eyes are cute to what they do to me. Hear me holler, I choose a sweet Lollapalooza in thee. I feel so rich in a hut for two, two rooms and kitchen, I'm sure would do. Give me just a plot of, not a lot of land, and I'll swell, thou witty, thou grand, thou swell, thou witty, thou sweet, thou grand, wouldst kiss me pretty, wouldst hold my hand. Both thine eyes are cute to what they do to me. Hear me holler, I choose a sweet Lollapalooza in thee. I feel so rich in a hut for two.
Sarah Vaughan, Mr. Kelly à Chicago en 1957. On va se quitter, Simon Goubert. J'aurais adoré, vous aussi, je suis sûr, parler trois heures comme ça sur les histoires des clubs. Facile, même une journée entière avec vous. Hein. Et un dernier mot sur la fin de la soirée dans les clubs. C'est un moment particulier pour les musiciens et pour le rapport au public aussi. Ils viennent parler avec vous. Il y a un échange. Oui. Et oui, du coup, là, sûr. Un échange direct. C'est bien un moment sûr. Un peu privilégié, j'imagine.
Bien sûr, bien sûr. Et alors, on peut l'avoir à certaines sorties de concert, mais c'est vrai que dans les clubs, tout le monde se retrouve au bar.
Là, et évidemment... on entend la fin du concert de votre enregistrement est désormais.
Oui. Les gens ont souvent peu envie de partir. En tout cas, ceux qui ont apprécié la musique. Et c'est une espèce de moment très... Très convivial et très privilégié, oui, en effet. Et puis pour nous, c'est le fait de se dire ah, demain on remet ça, génial. Mais souvent, il y avait un set après encore.
Merci Simon Goubert.
Merci à vous.
Bienvenue au club, bienvenue à nouveau sur Aligre FM pour Jazzland.
Avec plaisir.
Merci pour cette émission avec mon technicien préféré Armand. Et bien sûr, cette émission est réécoutable en podcast sur aligrefm.org. Et l'après-midi continue évidemment sur Aligre FM.
Aligre FM 93.1.